J'ai vu Dieu répondre à la prière et faire des choses pendant qu'ils étaient dans la prière. J'ai vu des couples commencer à se rapprocher l'un de l'autre dans la prière, en réponse à la prière. J'ai vu des situations personnellement où, en cours d'année, je disais au Seigneur, « Seigneur, je ne sais pas du tout quoi faire avec cette situation-là. Je ne vois pas de dénouement à ça. Je sais pas par où m'y prendre, je sais pas comment faire. J'ai l'impression que ça va juste comme tomber, tout ça. » Et j'ai vu Dieu répondre en 2012, de manière vraiment merveilleuse. J'ai vu Dieu répondre à des prières que j'avais lancées comme ça, très simplement. Je l'ai mentionné en 2012, au début de l'année, près du milieu de l'année, lorsqu'Alexandre a gradué. À un certain moment donné, il est en train de graduer de sa maîtrise en théologie, tout ça. Et à un certain moment donné, j'ai juste fait une constatation devant Dieu dans la prière. J'ai dit, Seigneur, j'ai pas d'autres ouvriers à former. Là, faut que tu me donnes des gars à former. Et en 2012, Dieu a répondu à ça. J'ai jamais refait cette prière-là une deuxième fois. J'ai juste lancé à Dieu. Et je ne sais pas, en 20 ans de vie chrétienne, combien de fois Dieu m'a rappelé par une bénédiction, que ce n'était pas juste une bénédiction, c'était une réponse à une prière que j'avais lancée des fois 2-3 ans avant, toute simple. Mais en même temps, au moment où ça se produit, bien sûr, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu pourrait peut-être croire à une coïncidence, mais dans le parcours de quelques décennies de vie chrétienne, ces coïncidences-là sont trop nombreuses. Et t'en viens à discerner un clin d'œil du Seigneur, un exaucement, une bénédiction de la part de Dieu. Maintenant, si tu ne crois pas à la prière, si tu ne crois pas que Dieu vient nous rencontrer dans la prière, c'est probablement simplement parce que tu es quelqu'un qui ne prie pas. Si tu ne crois pas que cette intimité-là, ce temps-là, est un moment béni, c'est probablement que tu es un chrétien qui prie très peu. Parce que rares sont les chrétiens qui cherchent la face de Dieu dans la prière et qui ne voient pas de nombreuses bénédictions. Personnelles, intimes avec Dieu, et simplement parce que Dieu répond aussi aux prières qu'on adresse. Alors, je vais le dire comme ça, d'accord? Puis vous vous arrangerez avec le Seigneur là-dessus. Ces invitations à venir prier de 9 à 10, c'est une sainte convocation de la part de vos pasteurs, de moi-même, du Conseil des anciens, à venir prier avec nous les 3 prochains dimanches de 9h à 10h. Peut-être que vous êtes mal à l'aise à prier en groupe. Peut-être que vous dites, oui, mais je suis pas capable. Restez en silence. Mais dans vos cœurs, vous allez être dans la prière avec nous. Peut-être que vous dites, je connais pas personne. Tout le monde est bienvenu. On se sépare en petit groupe de 4-5 avec des gens qu'on connaît pas nécessairement. Peut-être que vous aimez pas la formule. Ça change rien dans ma vie. La prière en assemblée, la prière en église vient de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Et donc, c'est une sainte convocation qu'on place devant vous. À venir prier avec nous les 3 prochains dimanches de 9h à 10h et à consacrer ce mois-là à chercher à grandir dans vos cœurs, dans votre vie personnelle, dans votre vie de couple, dans votre vie de famille, à grandir dans votre vie de prière. Amen. Placez ça dans la prière, s'il vous plaît, et soyez là avec nous. On va prier ensemble pour bien commencer cette série. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi parce que c'est la bonne place où être, devant celui qui règne dans les cieux et sur la terre. Seigneur, je crois en toi parce que tu as alimenté cette foi en moi depuis maintenant 20 ans, Seigneur. Tu as nourri cette foi en moi. Je crois en toi, Seigneur, parce que la vie trouve tout son sens. Et cette soif qu'il y a en moi est étanchée auprès de toi, Seigneur, seulement. J'ai cherché ailleurs. J'ai cherché à de nombreuses places, Seigneur. Mais ce n'est qu'en toi, Seigneur Jésus, que ma soif a été étanchée. Père, nous avons besoin d'apprendre à prier. Nous avons besoin de devenir des gens de prière. J'ai besoin, Seigneur, de grandir dans ma vie de prière. Tu le sais, Seigneur. Et j'ai soif de toi. J'ai soif de m'approcher de toi, Seigneur. Entends cette prière, Père, alors que nous commençons cette année. Que ce soit pour nous une année où nous grandissons dans notre intimité avec toi, Seigneur. Où nous apprenons à passer ces minutes parfois interminables, à rester là dans le silence, à chercher cette disposition de cœur pour commencer à te louer, Seigneur. Commencer à t'adorer, commencer à t'élever nos supplications, nos requêtes, Seigneur. Apprendre à persévérer dans cette lutte qui est aussi le combat de la prière, Seigneur. Persévérer dans la patience, dans l'action de grâce, dans les supplications, en attendant tes réponses, Seigneur. Père, je te bénis pour ceux et celles ici qui sont des hommes et des femmes de prière, qui portent dans leur cœur des prières depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, Seigneur, et qui attendent encore fidèlement de voir ta gloire dans l'exaucement de cette requête, Seigneur. Fortifie-les pendant ce mois sur la prière, Seigneur. Et pour tous ceux et celles qui ne croient pas, que tu viens nous rencontrer dans la prière, confonds-les, Seigneur. Parle à leur cœur, je t'en supplie, par ton Esprit Saint, puissamment, Seigneur. C'est en Jésus-Christ que je te le demande. Amen. Amen. Très brièvement ce matin, ça va vraiment être une introduction à la série. Tournez avec moi dans le psaume 42-43. On va regarder ça ensemble. On a intitulé la série « Soif ». Et ce psaume-là exprime justement cette soif de Dieu. Dans le psaume 42-43, c'est vraiment une prière, d'accord? Les deux psaumes vont ensemble. C'est une prière qui se continue d'un à l'autre. On trouve un individu, une personne, un croyant qui vient exprimer à Dieu sa soif de Dieu, son désir de venir rencontrer Dieu. Et ça se passe dans un contexte, dans un moment dans sa vie où les choses ne vont pas comme il voudrait. D'accord? Une période difficile de sa vie où s'il regardait sa vie au quotidien à l'extérieur de la foi, il trouverait sa vie misérable. Il y a eu un gros hit au Québec, très, très profond et philosophique. Vous connaissez Lise Leblanc? Elle a fait une chanson profonde, vraiment, riche de sens. Ça s'en va comme ça, ma vie c'est de la... Je le dirai pas, merci. Le gros, gros hit au Québec en 2012. Mais en même temps, cette chanson-là exprime quelque chose que nous vivons tous par moments. Chrétiens ou non, on s'entend? Elle exprime là-dedans cette idée où les choses ne vont pas comme elle voudrait, puis elle trouve sa vie misérable. Mais j'ai une question pour vous, une question pour toi. Où te tournes-tu, où vous tournez-vous lorsque vous avez le goût de chanter cette chanson-là avec Lise Leblanc? Quand, dans le fond, c'est ça le refrain qui tourne dans votre tête constamment, vers qui vous tournez-vous, vers quoi vous tournez-vous dans ces moments-là? Dans ce psaume-là, on trouve un croyant. On trouve quelqu'un qui a la foi, qui a connu Dieu et qui fait la seule chose sensée à faire, se tourner vers Dieu pour crier à l'Éternel. Je vous lis le psaume maintenant. Psaume 42:1. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitzéar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait la grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent. en me disant sans cesse, « Où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu, mon protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu. De Dieu, ma joie et mon allégresse. Et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Le psaume 42-43, c'est une longue litanie où on assiste vraiment à l'intérieur du cœur, à la dynamique de la foi chez un individu qui vit des moments difficiles. Il croit en Dieu et il croit tellement en Dieu qu'il sait que son Dieu est souverain. Voyez-vous, au verset 8, il dit « Un flot appelle un autre flot. Au bruit de tes ondées, toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. » Cet homme-là croit dans un Dieu souverain, un Dieu qui est au contrôle de sa destinée, un Dieu qui permet et empêche toutes choses autour de lui dans sa vie. Et donc, lorsque quelqu'un s'en prend à sa vie, lorsque quelqu'un médit contre lui, lorsqu'il a des problèmes de santé, lorsqu'il y a des tuiles qui lui tombent sur la tête, tout cela ne se passe pas à l'extérieur de l'univers où un Dieu souverain règne. Par conséquent, il ne peut pas faire autrement que de dire, « Seigneur, c'est toi qui permets cette épreuve-là dans ma vie. C'est toi qui permets ça dans ma vie. » Et donc, il croit en Dieu. Mais il vit cette dure réalité où ce Dieu en qui il croit permet que sa vie soit difficile, remplie d'épreuves à cette période-là de sa vie. Il se souvient de jours plus heureux où les épreuves n'étaient pas là, où c'était plus facile de louer Dieu. Et ce gars-là vient vider son cœur devant Dieu. Maintenant, je vais résumer ça comme ça ce matin. Au milieu des épreuves, le psalmiste fait le seul choix sensé. Il choisit de placer tous ses espoirs dans le Dieu qui l'a sauvé. Ça, c'est le choix qu'il fait. Et ensuite de ça, il crie à Dieu dans la prière et il cherche sa face. Alors, j'ai voulu prendre le psaume 42-43 pour commencer cette série, parce que dans la prière, je peux exprimer à Dieu combien j'ai besoin de lui, combien je veux le servir, combien je veux le louer, combien je veux le glorifier. Dans la prière, je peux fortifier ma foi aussi. Parce qu'à ce moment-là, à cet endroit-là, comme lui, je suis en train de parler à mon âme alors que je parle à Dieu. Parce qu'activement, je suis en train de dire et de déclarer que je veux me confier en Dieu et je commence à lui chanter des louanges. Je résumerai les trois éléments que je veux faire ressortir brièvement ce matin à ceci. Le choix de la foi, soit se confier dans le Dieu qui sauve. Deuxièmement, la prière pour me tourner vers Dieu et lui dire que j'ai soif de lui. Et l'Éternel, notre Dieu, comme source de la vie, comme seule source de la vie véritable. Voyez-vous, ce gars-là ne fait pas simplement vomir sa misère dans la prière. Ce gars-là n'est pas simplement dans une complainte, dans une litanie. Dans cette prière-là, le psaume 42-43, c'est une prière, d'accord? On est en train d'assister au culte personnel de quelqu'un. On est avec lui dans ce moment-là de prière. Et dans cette prière-là, il ne fait pas que déverser son cœur devant Dieu, se plaindre de toutes ses misères. Il prend une décision. Il y a un choix qui est pris dans ce temps-là. Et déjà, je dirais, simplement par le fait qu'il va dans la prière, ce choix-là est déjà en route, d'accord? Parce qu'il décide de se tourner vers Dieu pour trouver solution à tous ses maux. Alors, cette personne-là ne fait pas que vider son cœur. Il prend une décision, il fait un choix. Et le psalmiste a pris le temps de nous le répéter au verset 6. « Pourquoi t'as battu mon âme? Espère en Dieu, car je le louerai encore. » Il y a cet élan dans son cœur de souffrance qui est là. Et il y a cette décision en même temps où il est en train de se parler à lui-même. Et ça va revenir au verset 11, au verset 12. Et ça va revenir au chapitre 43, verset 5 aussi. On voit cette décision-là qui revient constamment. C'est le choix de la foi. C'est le seul choix sensé pour celui qui croit. Je ne sais pas si tu es sans Dieu ce matin. Je ne sais pas si tu es un sympathisant du christianisme, mais tu es en train de chercher, tu es en train de te poser des questions, tu as été élevé dans un foyer chrétien, puis tu écoutes la foi de tes parents, tu ne sais pas si tu veux vraiment que ce soit la tienne. Mais tu peux te tourner n'importe où et chercher à assouvir cette soif-là qu'il y a, à régler tous tes maux. Pour le chrétien, pour le croyant, le seul choix sensé, le choix de la foi, c'est de me tourner vers Dieu et de me confier en Dieu. Alors, je ne connais pas les circonstances de ta vie. Si la toune qui tourne dans ta tête régulièrement ressemble à cette chanson-là de Lise Leblanc, tu as un choix à faire. Tu as une décision à prendre. C'est le choix de la foi. C'est le choix, la décision de te tourner vers Dieu dans ton cœur et de ne pas en rester à tes litanies, à tes complaintes, à ta misère. Et ça demande une décision dans ton cœur, dans ton âme. De te parler à toi-même et de dire, non, moi je vais croire en Dieu. Je vais espérer en Dieu. Et pas dans n'importe quel Dieu. Je comprends que quelqu'un qui n'est pas chrétien, quelqu'un qui n'est pas croyant, regarde ça et il se dit, c'est de la pensée positive votre affaire, la gang. Là, vous êtes juste en train de vous dire, tu sais, oui, ça va aller mieux, vous pourriez faire ça, ça serait exactement la même affaire. Non! Le psalmiste espère dans le Dieu vivant, le Dieu de son salut. Au verset 6, il dit, « Il est mon salut et mon Dieu. » Il est en train d'adresser ses prières au Dieu vivant. Voyez-vous, l'Éternel, le Dieu de la Bible, est le Dieu vivant et celui qui sauve. Il a sauvé à travers l'histoire. L'histoire est là pour nous en parler. Lisez les Écritures, vous allez voir, c'est le Dieu qui sauve. Quand tu es dans ta misère, quand ça va pas, quand les choses sont difficiles, je me tourne vers le Dieu qui a sauvé à travers l'histoire. Nous le connaissons par sa marque de commerce. C'est le Dieu qui sauve. Il a sauvé Israël. Il a sauvé des croyants depuis des milliers d'années. C'est le Dieu qui sauve dans l'histoire en envoyant son Fils Jésus-Christ. Parce qu'il sait que nous ne pouvons nous sauver nous-mêmes. Et si tu es chrétien comme moi, tu sais personnellement que c'est le Dieu qui sauve. Parce qu'il t'a sauvé. Et il te sauve encore. Et si tu es chrétien depuis plusieurs années, tu peux regarder à l'histoire de ta vie chrétienne. Cette histoire que Dieu écrit dans ta vie depuis 5, 10, 15, 20 ans. Et tu sais que c'est le Dieu qui sauve. Parce que tu sais ce que Dieu a transformé dans ta vie. Dieu m'a sauvé de moi-même, je peux vous le garantir. Il m'a sauvé de sa colère. Par l'œuvre de Christ à la croix. Mais il m'a sauvé de moi-même. Et je le sais, c'est mon histoire à moi. Lorsque je regarde en arrière, je le sais qu'il m'a sauvé. Alors, je prends cette décision, je fais ce choix-là. D'arrêter simplement cette litanie-là de rouler dans ma tête et de me tourner vers Dieu. Pas vers n'importe quel Dieu, mais vers le Dieu qui sauve, qui a sauvé à travers l'histoire, qui a sauvé à travers Jésus-Christ, qui m'a sauvé personnellement. Je l'ai connu. Je l'ai connu. Il se rappelle à ma mémoire lorsque je décide de me tourner vers lui. Deuxièmement, la prière pour me tourner vers Dieu et lui dire que j'ai soif de Dieu. Les psaumes, c'est des prières, d'accord? Maintenant, vous êtes dans une église ici où il y a beaucoup d'enseignements, on donne des cours, on enseigne, on a des plans de lecture de la Bible, il y a un paquet d'affaires. Et c'est possible simplement de venir et d'écouter, d'entendre. Simplement par la décision qu'il prend d'aller vers Dieu et de l'exprimer à Dieu dans la prière, le psalmiste est en train de passer des intentions à l'expression de cette décision-là de sa foi. C'est possible pour vous de venir dimanche après dimanche, d'écouter des prédications, puis si le pasteur était dedans ce dimanche matin-là, « Oh, il m'a craqué pour la semaine, on est reparti, OK, go! » Et c'est possible que tout ça reste simplement au niveau des intentions. Je peux lire des dévotionnels, je peux écouter des prédications sur le web, j'écoute des prédications. Il y a des prédicateurs tellement meilleurs que moi, j'en écoute à toutes les semaines. Tout ça peut rester dans le domaine des intentions. Maintenant, si vous avez déjà vécu une relation amoureuse, vous savez qu'à un moment donné, il faut faire quelque chose, là. Ça ne peut pas rester là, dans le domaine de l'intention. Il faut à un moment donné que ça s'exprime, ça. Et déjà, lorsque je suis en train de l'exprimer, je passe à l'action. Mais c'est ça la prière. C'est ça qu'il est en train de faire ici. Alors, je ne peux pas simplement m'asseoir sur un statut de chrétien. Moi, je suis un chrétien. Donc, j'espère en Dieu. Quotidiennement, c'est où ça, dans ta vie? C'est dans la prière. Et c'est pour ça que je dis, si tu pries peu, tu espères peu en Dieu. Tu es un chrétien passif. Peut-être que tu es dans l'action, tu es dans le service, mais là on parle du cœur. Je suis en train de vous parler de la dynamique du cœur, je suis en train de vous parler de ce qui se passe vraiment à l'intérieur de vous. Pas ce que vous pouvez montrer à travers vos actions, vos gestes, ce qui peut en jeter, ce qui peut projeter une bonne image à tout le monde. Je vous parle de ce qui se passe dans le cœur. Si vous priez peu, vous exprimez peu ce désir de vous tourner vers Dieu. Et vous, voyez-vous, la prière n'est pas sans être active. C'est un geste d'action. De la même manière que lorsque j'ai téléphoné à Esther, puis j'ai dit, Esther, je l'appelais pas chérie à ce moment-là, j'aimerais ça t'inviter à aller manger au restaurant. Elle dit, ah oui, pourquoi? Là, j'étais vraiment à gauche pour aller jaser de la rumeur. T'as assez poche. Mais ça a commencé comme ça. Voyez-vous, jusqu'à temps que je fasse ce téléphone-là, on s'en allait où? On se regardait. La prière, c'est passer des intentions à l'expression. C'est ce moment où je vais vers Dieu et je dis, Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai besoin de toi. Et je prends le temps que ça prend pour prier, aller lui exprimer que j'ai besoin de lui, que je veux m'approcher de lui. Si tu pries peu, il n'y a pas d'intimité avec Dieu. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et la prière, c'est difficile, d'accord? Sont rares les personnes pour qui la prière, c'est facile. Je parle pas des prières qu'on lance, tu sais, quand tu t'enlignes sur un accident d'auto puis t'en lances une petite vite au Seigneur ou n'importe quoi. Toutes ces prières-là, c'est pas ça que je parle. Je parle d'aller vers Dieu dans la prière. Épancher mon cœur. Vider mon cœur devant Dieu. Rester là jusqu'à ce qu'il remplisse mon cœur de louanges à son nom. Dans la prière. Oh, ces minutes-là sont longues. Rares sont les personnes pour qui c'est facile de prier. Ces minutes-là sont très longues. La prière pour exprimer ma soif de Dieu. C'est une relation d'amour qu'on vit avec Dieu. Et si pour vous, la vie chrétienne se résume à venir ici, entendre des principes, mettre de l'ordre dans votre vie, à partir de principes bibliques. Vous dites, ce livre-là peut m'aider à mettre plein d'ordre dans ma vie, il peut corriger plein d'affaires dans ma vie. Je vous dis, vous n'avez absolument rien compris au christianisme. Rien. Si c'est à ça que ça se résume, vous n'avez rien compris au christianisme. La Bible n'est pas un code de conduite. La Bible est une lettre d'amour que Dieu nous a écrite afin de nous révéler qui il est dans toute sa gloire et nous inviter à rentrer dans cette relation avec lui où on va vivre comme lui, on va devenir comme lui. C'est véritablement une relation d'amour dans laquelle il nous invite. Et puis ça se passe dans un dialogue. Ça se passe dans un dialogue. Essentiellement, Dieu me parle à travers les Écritures. Essentiellement, je lui parle à travers la prière. Puis je vais lui montrer que je l'aime à travers toutes mes actions, c'est vrai. Mais ça suffit pas de le montrer. Il faut encore l'entendre. Il faut encore le dire. Pour exprimer ma soif de Dieu. Ce que je trouve extraordinaire dans le psaume 42-43, c'est que je n'ai pas besoin d'être en bonne santé spirituelle pour vivre ça. J'ai juste besoin d'être conscient que j'ai soif. J'ai pas besoin que tout aille bien. J'ai pas besoin d'être un super gars de prière qui passe plein de temps dans la prière. J'ai simplement besoin d'avoir conscience que j'ai besoin de Dieu. Alors, si ce matin, dans ton cœur, tu dis, ouais, mais Yannick, moi, j'ai pas le goût de prier. Man, t'es le meilleur candidat. Parce que t'es en train de me dire, en fin de compte, que t'es pas rempli de l'Esprit. Est-ce que t'as pas envie d'être rempli de l'Esprit? Est-ce que t'as pas envie de vivre la joie de la vie chrétienne, de ne pas être constamment affecté par les circonstances autour de toi, mais d'avoir les yeux fixés sur le royaume de Dieu, sur Christ. Alors, si ton cœur est sec, c'est qu'il a besoin d'être abreuvé. Si ton cœur est sec spirituellement, c'est qu'il a besoin de cette ondée, de cette source-là. Tu es le candidat idéal pour venir dans la prière avec nous. Tu es la bonne personne pour ça. Et la prière sert à ça, à m'approcher de Dieu. Je termine avec cette idée qui est là dans le passage et vraiment, je manquerais l'essentiel si je ne le soulignais pas. Alors, donnez-moi quelques minutes simplement pour souligner ça. Il y a cette image qui est prise de cette soif, d'accord? Et le psaume 42 commence avec « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. » Mon âme a soif de Dieu. Dans les Écritures, une des images très fortes qui est utilisée et qui revient à plusieurs reprises dans Jérémie, prophète de l'Ancien Testament, dans Ésaïe, prophète de l'Ancien Testament, c'est que Dieu est comme une source vive. Et cette image-là est très forte dans les Écritures. Cette image d'une source à laquelle on vient s'abreuver. Et c'est ça qui est utilisé ici. Comme une biche qui est dans une terre aride et qui a besoin d'eau. C'est pas un chameau, vous comprenez? J'aime tellement l'image. S'il avait dit « Je suis un chameau, j'ai pas besoin de toi. Je vais faire le millage qu'il faut puis je vais aller me rassasier ailleurs. » Mais une biche dans ces régions-là, au Moyen-Orient, je vous garantis qu'elle a besoin d'eau. Parce qu'elle a pas de réserve. Et moi, je veux m'identifier avec cette fragilité-là. Parce que j'ai cette soif, j'ai besoin d'aller m'abreuver à la seule personne qui peut étancher véritablement ma soif. Dans Jérémie 2, verset 13, on lit ceci. Dieu est en train de parler à travers la bouche de son prophète et s'adresse à son peuple et dit « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Et l'image qui nous est donnée ici, c'est que le peuple d'Israël s'était détourné du Dieu qui lui seul peut étancher cette soif qu'on a, cette soif de l'âme, qui donne vraiment un sens à la vie. Ils s'étaient détournés de l'Éternel pour se creuser des citernes à eux-mêmes et faire leur propre réserve à eux-mêmes de cette eau stagnante avec des citernes crevassées. Dans les Écritures, on appelle ça des idoles. Des idoles, ce sont toutes ces choses qui à quelque part, avec lesquels tu essaies de combler ce vide intérieur qu'il y a. Et donc, les meilleures choses du monde, les amis, l'amour, le sport, les activités, le travail, des projets de carrière, pensez, nommez-le n'importe quoi. Les meilleures choses au monde peuvent devenir des citernes crevassées, des idoles vers lesquelles tu te tournes. Quand tu as le goût de chanter la toune avec Lise Leblanc, là, vers quoi tu tournes? C'est ça ma question tantôt. Si ta réponse, ce n'est pas Dieu, tout ce à quoi tu penses, la bouffe, l'alcool, l'amusement, les sorties, toutes ces affaires-là vers lesquelles tu vas pour t'étourdir, pour te donner de la drive dans la vie autre que celle que Dieu peut te donner, ce sont tes citernes crevassées. Ce sont tes idoles. Ça peut être très bon, mais tu les as invités à prendre la place de Dieu dans ton cœur. Et elles ne peuvent pas étancher cette soif-là. Il y a quelques années, j'avais donné une conférence au camp des boulots avec des jeunes. Puis j'avais pris cette image-là. On a quelques photos. C'est pas tout le monde qui a vu Castaway. Qui a vu Castaway? Oui, quand même, pas mal de monde. Les plus jeunes, peut-être non. Tom Hanks est sur une île déserte. Il est abandonné sur cette île déserte, d'accord? Et puis, il veut survivre, il est seul, puis à un certain moment donné, il commence à souffrir de solitude. Fait que, c'est un avion qui s'est écrasé, puis il récupère ce qu'il peut récupérer, puis il y avait des ballons dans l'avion, alors il y a un ballon de volleyball Wilson. Et Tom Hanks souffre de solitude terrible. Et à un certain moment donné, tout ce qu'il trouve de bon à faire, c'est de se créer un ami qui s'appelle Wilson, évidemment. Et ça devient sa seule relation. Quand j'étudiais au cégep, mon prof de philo nous avait dit à un certain moment donné, avec chaque être humain qui meurt, c'est un univers qui disparaît. J'avais trouvé ça fantastique comme phrase, je m'étais mis à réfléchir à ça. Et une des choses qui m'était restée de cela, c'est que nous sommes tous, chacun d'entre nous, un monde en soi. Nous vivons sur une île, chacun d'entre nous, même si on est en relation. Ah, tu sors le vendredi soir, n'importe quoi, tu as des activités, tu as des amis, tu as un paquet d'affaires, tu t'occupes l'esprit. Mais à différents moments dans ta journée, dans ta semaine, dans l'année, Tu es obligé de prendre conscience que tu es comme ta main, que tu es seul sur ton île, parce que tu es seul avec toi-même. Et à ce moment-là, il y a cette soif-là d'une communion, d'une véritable communion. Cette soif-là, Dieu seul peut l'étancher. Parce que c'est ton Créateur, parce qu'il est témoin de chacune de tes pensées, de chacune de tes émotions, de chacune de tes peurs, de chacune de tes joies. Parce qu'il est là dans l'intimité avec toi, non seulement maintenant, mais si tu le veux, pour l'éternité aussi. Et si ce n'est pas Dieu qui étanche cette soif dans ta vie, c'est ça que tu as. Je ne sais pas comment il s'appelle ton Wilson, c'est peut-être les activités, du sport, projet de carrière, les amis, l'amour. C'est un Wilson, je te dis. C'est vide. C'est creux. Ça peut être super sympathique, ça peut être gentil. Ça ne pourra pas étancher cette soif qu'il y a à l'intérieur de toi. Parce qu'il y a une seule personne qui peut le faire et c'est Dieu. C'est lui la source d'eau vive. Maintenant, on est dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, et puis dans Jérémie, puis dans Ésaïe, mais on avance dans le temps, et pour nous, c'est en arrière, on parle de 2000 ans, il y a une personne qui est venue, absolument extraordinaire. Un homme hors norme, un homme Dieu. Je sais que c'est peut-être flyé, c'est la réalité, tu peux le connaître. Cet homme-là s'appelait Jésus-Christ. Et tout à l'heure, Alexandre, pour le repas du Seigneur, nous a conduit dans un passage dans Jean 6, verset 35. Et je vais vous le lire, Jean 6, 35. C'est Jésus qui parle et Jésus dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Un jour, Jésus était en train de marcher, puis c'était un homme, fait qu'il fallait qu'il boive de l'eau, pareil comme tout le monde, puis il croise une dame qui était à un puits, et cette dame-là est en train de puiser pour elle-même, puis il commence à lui demander, « Pourrais-tu me donner de l'eau? » Parce que j'ai soif. Cette dame-là était d'une autre origine, était d'une autre origine. Elle n'était pas juive, elle était samaritaine. Et donc, elle commence à se poser des questions. Toi, un juif, tu parles à une samaritaine. T'es sûr de ton coup, mon homme? Jésus lui dit simplement, si tu savais qui je suis, si tu savais qui je suis, tu me demanderais à moi de te donner de l'eau. Une eau qui viendrait étancher une soif comme tu n'en as jamais connue. Et si je te donnais cette eau-là, des fleuves d'eau vive couleraient de ton sein jusque dans l'éternité. Cette source-là viendrait à l'intérieur de toi et elle viendrait déborder sur les gens autour de toi. Jésus-Christ est venu, il est cette source d'eau vive. Parce que c'est Dieu le Fils qui est venu marcher au milieu de nous. Alors ce matin, ça se peut qu'il y ait des gens avec deux soifs différentes ici dans la salle. Si vous êtes déjà chrétien, vous avez connu Jésus-Christ. Et si vous vivez cette sécheresse spirituelle, c'est que vous vous êtes éloigné de lui. Jésus dit dans Jean, demeurez en moi. Vous vous êtes éloigné de lui. Jésus dit dans Apocalypse 3:20, je me tiens à la porte et je frappe. Il s'adresse aux chrétiens. Vous vous êtes éloigné de lui. Il veut venir vers vous. Venez vers lui dans la prière tout le mois de janvier avec nous. Mais peut-être que tu souffres d'une autre soif parce que tu n'as jamais connu personnellement Jésus-Christ. Cette soif-là ne se règle pas simplement avec une prière. Elle se règle avec une démarche sincère du cœur où je cherche à connaître Jésus-Christ. Il y a le cours La foi chrétienne expliquée dont j'ai parlé tantôt que vous pourriez prendre. Mais ça commence quand même dans la prière en disant, « Père, je pense que je ne te connais pas vraiment. Je pense que je ne connais pas Jésus-Christ vraiment. Et j'ai besoin que tu viennes rassasier mon âme parce que j'ai essayé toutes sortes d'autres choses. » Et j'ai fait le tour maintenant. Je sais, c'est de toi dont j'ai besoin. Viens me révéler l'œuvre de ton Fils. Et par sa grâce, il va vous faire découvrir ce que Christ a accompli à la croix. Qu'est-ce qu'il a fait là pour votre âme? Et quand tu saisis cela et que tu l'acceptes, littéralement, tu expérimentes une grâce que tu n'as jamais expérimentée avant dans ta vie. Parce qu'il y a cette ferme assurance, cette certitude profonde que plus rien dans ma vie, hors de ma vie, plus rien ne pourra jamais me séparer de l'amour de Dieu. Je ne serai plus jamais seul, car il est toujours avec moi, toujours favorable à moi. Je t'invite à prendre cette décision-là. Et je vous invite toute l'Église, soyez là dimanche prochain à 9h. Venez prier avec nous. Prenez du temps en prière en couple pendant le mois de janvier. Prenez du temps en prière avec des amis pendant le mois de janvier. On va parler ensemble de repentance. On va parler ensemble pendant le mois de janvier de prier avec des frères. Qu'est-ce que les Écritures nous enseignent sur ça? On va parler ensemble de prier pour les nations pendant le mois de janvier. Consacrons-nous ensemble à la prière. Allez acheter le livre sur une vie en prière de Paul Miller. Ça va vous inspirer, ça va vous montrer un chemin. J'espère qu'on aura quelques partages pendant le mois de janvier où des gens vont vous témoigner justement de ce que Dieu a fait dans leur vie de prière à eux. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je t'aime. Je t'aime parce que tu es ma source, Seigneur. Tu t'es révélé à moi, Seigneur. Tu t'es révélé à nous. Tu nous as fait connaître que tu n'étais pas qu'un homme, mais que tu étais le Dieu homme qui venait s'offrir en sacrifice pour nous. Seigneur Jésus, je t'aime parce que tu marches avec moi tous les jours. Tu es là dans l'intimité de mon cœur, de mes pensées. Et je veux te le dire encore une fois avec le psalmiste, j'ai soif de toi, Seigneur. J'ai soif de ces temps d'intimité avec toi dans la prière, Seigneur. Alors fais-nous grandir en Église, dans notre vie de prière, dans notre intimité avec toi. Et ceux d'entre nous qui ne croient plus que tu viens nous rencontrer dans la prière, que tu écoutes et réponds aux prières, Seigneur, donne-leur de se repentir et de crier à toi. Cette semaine, dans la prière, qu'ils crient à toi, Seigneur. Et ceux au milieu de nous qui ne te connaissent pas, Seigneur Jésus, viens te révéler à eux. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen.